Quelle attente, et pourtant on est en direct du MMI Festival, Erreur 404, MMI 404 Not Found. Comment ça se passe, c'est quoi le nom? Alors moi je ne sais pas ce que ça veut dire 404, pourquoi?
Je ne sais pas ce que ça veut dire 404.
Pourquoi 404?
N'es-tu pas pourtant ex-développeur web?
Il n'y a aucune salle qui s'appelle comme ça ici, il n'y a pas de numéro sur les salles.
Oui, non, mais tu sais, 404... forcément de l'erreur 404, vois-tu.
Ah, d'accord.
Mais oui, tout à fait. Erreur 404, pour ceux qui ne savent pas, quand une page web n'est pas trouvée, c'est ce code qui s'affiche.
Le not found.
Oui, le not found.
D'accord, très bien, je comprends.
Voilà.
Je comprends. Pierre, tu es un éminent animateur de cette station. Tu as surtout la chance, l'honneur et le privilège aujourd'hui d'avoir un aréopage, et non pas un aéropage comme on dit, d'inviter autour d'une table sur un studio délocalisé à l'IUT de Castres.
Voilà, en mode c'est la street.
Exactement. Exactement. Et du coup, je te laisse commencer. C'est à toi. C'est à vous, mon bon.
En cette sympathique matinée, quelle heure il est mon cher Guinness? Il est 9h30, c'est ça?
32,
oh là là, 32, c'est
on est précis ici, on est synchro NTP. Hein.
Voilà, on devait commencer à 9h, mais bon, c'est les jeux directs, hein. Écoute, 30 minutes de retard, c'est ma foi très acceptable. Écoutez, on va commencer cette journée sur le Festival des Arts Numériques de Castres, l'émission 404 MMI Not Found, comme on peut l'appeler. Et donc on est là, 9h33, en compagnie de différents petits intervenants autour de cette table, que je regarde là droit dans les yeux, qui vont peut-être essayer de se présenter s'ils le souhaitent en attrapant un micro et peut-être en commençant par notre cher Timothée Hochet, que voici.
Bonjour, je suis Timothée Hochet et je suis vidéaste, scénariste, réalisateur, voilà.
Et c'est super.
Et c'est super.
Bonjour, je suis Hardisk et je fais des vidéos sur YouTube qui parlent d'audiovisuel avec de l'humour et des blagues sur Booba, bien sûr.
Très bien. Et bonjour, je suis Guillaume Slash, youtubeur également, mais plus dans la high-tech. Voilà, je teste des applis, des smartphones, je partage mes découvertes et c'est très sympa. Voilà.
Voilà. Mais c'est super parce que.
Une sorte d'idole pour l'émission C'est High-Tech sur Radium.
Exactement.
Tous les 15 jours, le jeudi
l'émission
à 19h.
C'est High-Tech qui frémit d'impatience.
Il déroule un poster à chaque fois de toi dans le studio, systématiquement.
Hein. J'imagine, j'espère, voilà. Sinon je m'en vais.
Il commence à être très sali d'ailleurs, souillé, je dirais même, ce poster. Voilà.
Je ne veux pas savoir ce que vous en faites.
Beaucoup
très
d'hommages qui sont rendus, des hommages appuyés.
Très bien.
Et du coup, cette interview va être, on va essayer de la diriger le mieux possible. Donc, on va poser quelques petites questions à nos intervenants. Peut-être on va commencer par Timothée Hochet, peut-être, vu que Nathan a sûrement des questions à lui poser, potentiellement. Je t'en prie, Nathan.
C'est à ton tour. Merci Pierre. Écoute, Timothée, déjà comment t'as commencé sur YouTube déjà?
Oui,
pour dire aux gens comment t'as commencé.
Oui, j'ai commencé sur YouTube, enfin à la toute base sur Dailymotion, hein, tout le monde a commencé par là à un moment donné. Et donc en faisant des vidéos sur YouTube, un peu de tout, enfin surtout des podcasts. Donc c'était l'époque des podcasts, l'époque de Norman, Cyprien, quand ça a explosé. Et donc c'est à ce moment-là où moi j'ai eu envie de faire des petites vidéos humoristiques.
Est-ce que tu as eu ton podcast sur les profs?
Ouais. Mais mec, à l'époque c'était unique. Hein. À l'époque c'était pas si répandu que ça, en vrai. Donc voilà. Mais voilà, ouais, ça a commencé comme ça et ensuite petit à petit, voilà, j'ai arrêté de faire des podcasts, j'ai commencé à faire des sketchs et des courts métrages et puis voilà quoi.
D'accord. Et après du coup t'as fait Calls.
Vraiment après quoi.
Oui,
il y a un gros saut, mais oui.
Et ça a bien marché. Et du coup, Canal+ t'a contacté pour en faire une série, donc sur leur chaîne Canal+ Décalé.
Ouais, exactement. Ouais, j'ai fait un court métrage qui s'appelle Calls et qui principe est d'écouter seulement des appels téléphoniques et pas d'images. Et donc c'est avec ce principe-là que j'ai fait un court métrage. Et ensuite Canal est venu et a voulu adapter ça en série pour Canal+. Et donc voilà quoi, ça s'est fait et c'était très très cool et puis ensuite il s'est passé plein d'autres choses.
D'accord, et voilà, et ensuite tu es arrivé à Castres.
Ouais, ensuite je suis arrivé ici et puis après ça a été vraiment le summum de tout ce que j'ai fait, c'est d'être ici quoi.
Très bien, très bien. Eh bien écoute, merci. Passons à Henri Hardisk.
Bonsoir.
Pareil, toi du coup t'as commencé sur YouTube, enfin sur Dailymotion j'imagine.
On a tous des bails sombres sur Dailymotion, tous autour de cette table, même vous non, en face, c'est obligatoire. Arrête.
Non.
Arrête.
J'ai pas eu de chaîne.
T'as pas eu un moment podcasteur de 14 ans.
J'ai pas eu Gigi the Top Dailymotion. Là je me lance un bail, c'était mon vieux pseudo.
Sérieux?
Oui, c'est vrai.
Oh mon dieu. Ah, quelle horreur. On a tous été motion maker à un moment donné. Et puis YouTube en 2012 pour moi personnellement. Vraiment de manière un peu sérieuse en 2015 à temps plein là avec un monteur à temps partiel et des bureaux et tout le bordel depuis septembre.
D'accord.
Voilà.
Donc, super.
Voilà. Et en fait, oui, je t'ai anticipé, excuse-moi. moi en fait, j'avais déjà une chaîne YouTube il y a 7-8 ans, je parlais de jeux vidéo. Ouais. Je m'appelais H1N1 Virus à l'époque.
La belle époque.
Et j'avais un peu percé parce que j'avais 18 000 abonnés, mais c'était il y a 7 ans. Donc, il y a souvent des petits commentaires en dessous de ma chaîne actuelle qui me disent ah, mais t'étais pas H1N1 Virus. Donc, ouais. Et non, là, par contre, de façon un peu plus pro, effectivement, 2 ans après avoir fini mes études, j'ai attaqué le côté un petit peu high-tech, partage de cette passion-là. Et voilà, c'est très cool. Je sais pas s'il y a autre chose à dire.
Non. Tu vis pas YouTube du coup, toi?
De quoi?
Tu vis pas YouTube?
Si, je vis complètement de YouTube. C'est mon métier. Ouais.
Parce qu'après, du coup, à côté, t'as sa start-up.
Ouais, mais c'est 20-30% de mon temps en fait. Ouais.
D'accord, ok.
Macron serait très content. Ça, c'est 20-30% de mon temps, c'est pas mon truc principal. C'est un truc important, mais c'est pas mon truc principal du tout. Et je vis de ma chaîne YouTube, ouais.
Et ça fait combien de temps que tu arrives à en vivre de ta chaîne YouTube?
Ça fait un an et deux mois. C'est au bout d'un an de quand j'ai débuté que là c'était bien. Donc ça fait 1 an et 3 mois, ouais, c'est ça.
Ok.
D'accord, pareil, Ardis, du coup, ça fait depuis quelques temps.
J'ai sauté le pas en septembre. Techniquement, j'aurais pu vraiment bien avant, mais je voulais pas sauter le pas avant d'avoir quelque chose de construit. En fait, si tu veux, pas seulement vivre de ma chaîne YouTube, c'est bien, mais moi, ce que je veux, c'est créer un espèce d'organe de production autour de ma chaîne. Ouais. Donc, vraiment avec un staff, etc. Machin. Donc, j'ai attendu d'avoir assez de ressources pour construire même ce que le début de ça avant de partir dedans. Parce qu'avant, moi, j'avais une boîte de prod qui était mon vrai boulot. Et si tu veux, je voulais pas fermer cette boîte-là pour retourner faire des vidéos dans mon salon et juste être tout seul à en vivre, tu vois. Je voulais vraiment créer un espèce de truc autour que j'ai toujours pas fini de créer d'ailleurs, hein,
c'est en bonne voie quoi.
Si tu veux, voilà, c'est en bonne voie et j'ai au moins assez de ressources pour poser les bases, avoir d'autres personnes avec moi, créer d'autres émissions sur d'autres plateformes et tout. On est beaucoup sur Twitch en ce moment. Donc voilà.
D'accord. Ouais, t'as pris un petit studio et tout.
Ouais.
D'accord. Super.
Et du coup, ouais, t'arrivais à te démarquer en commençant les live Twitch, du coup, je sais pas si Guillaume, tu en fais souvent.
Alors, moi, je fais une émission le dimanche soir, à 20h30, parce que les lives, on est vraiment en train de se rendre compte que c'est important d'en faire. Alors, on n'a pas forcément la même philo avec Henri, parce que lui est très Twitch et moi, je suis très YouTube.
Ouais.
Il y a les bons cafés qui arrivent. Hein,
C'est l'instant café proposé par le podcast.
Voilà. Mais qu'est-ce que tu disais? Excuse-moi, la question.
Oui, mais toi, du coup, tu fais plus tes lives sur YouTube que...
Ouais, je fais mes lives sur YouTube, ça, exact, ouais.
Ok, bah ça c'est cool. Ensuite, mon petit Nathan.
Le réveil a été dur.
C'est le café.
Le réveil a été dur grâce à la cave du...
La table du sommelier.
Un excellent restaurant, bien entendu, que je devais dédicacer.
On passe le bonjour au gérant.
Je suis sponsor. Par ce lieu.
Absolument pas.
Qui est excellent. Voilà.
Sur Castres.
Très bien, parfait.
Sur Castres.
Pour revenir sur les live Twitch, c'est bien, du coup, ça permet d'être beaucoup plus proche de sa communauté
C'est vachement bien parce que pour plusieurs raisons, une qui est très terre à terre et d'autres qui sont un peu plus fun. Déjà, il y a le côté interactivité évidemment, mais ça tu l'as avec tous les lives, que ce soit Twitch ou une autre plateforme. Maintenant, l'intérêt de Twitch par rapport à une autre plateforme, c'est qu'elle est
construite pour le live, dans le sens où YouTube est pas fait pour ça, et pour plein de raisons un peu techniques, je considère que faire du live sur YouTube, c'est pas hyper optimisé même pour toi à long terme. Mais lui, il a des résultats un peu différents de ce que moi j'ai eu dans mes tests, en fait. Donc, il a pas forcément tort. C'est juste que voilà, moi j'ai fait des tests, ça m'allait pas pour moi. Et ensuite, au niveau de Twitch, nous, en fait, on part de la chaîne YouTube et on veut construire des émissions et des concepts sur Twitch, mais pourquoi pas sur Instagram, en contenu Facebook natif, etc. Donc, si tu veux, on n'a pas assez de ressources pour tout ça. Et l'intérêt de Twitch, c'est qu'il y a une culture du sub et du don qu'il n'y a pas ailleurs. Donc, tu vois, nous, on n'a jamais fait de crowdfunding, par exemple. Et on a fait un espèce de campagne Tipeee, mais autour de la chaîne Twitch, où les gens s'abonnent. Et nous, voilà, on explique un peu les projets. Là, je vais le faire dans un prochain live, d'ailleurs, en détail, de ce qu'on veut faire sur Twitch. Là, j'ai envie de prendre un studio un peu plus grand pour construire un décor, etc. Machin, là, là. Et du coup, voilà, il y a des goals. Les gens savent ce que tu veux faire.
Quand il dit s'abonner, c'est payer
5 euros
par mois.
Parce
que c'est pas s'abonner comme YouTube.
On peut suivre et on peut s'abonner.
Exactement.
Il y a une vraie culture de ça sur Twitch, et c'est vachement bien parce que ça permet de soutenir les gens comme aucune plateforme ne le fait. Ouais. Aucune plateforme n'a cette culture de donner aux gens qui te donnent du contenu. Ouais. Et en vrai, voilà, c'est peut-être con comme raison, mais nous, ça nous aide beaucoup, en fait.
T'as pas l'impression d'avoir un peu ta communauté qui peut être scindée en deux entre la partie YouTube et la partie Twitch? Peut-être qu'il y a des gens qui suivent que tes lives et d'autres qui suivent que tes vidéos.
Bah, si tu veux, techniquement, moi, je fais du contenu sur 6 réseaux différents. Donc, c'est effectivement bien scindé. Mais après, t'as toujours un cœur de communauté qui va te suivre partout. Ouais. Ouais. Et ça, je pense que Timothée peut grave en parler parce que lui est carrément allé à la télévision française.
La télévision.
Donc, est-ce que les gens t'ont suivi là-dessus ou pas? Mais je pense que oui. Mais les gens, comment? Et puis t'as toujours un cœur de gens qui te suivent, et puis le reste, t'as des gens qui te découvrent sur d'autres réseaux et qui vont pas sur les autres. C'est le genre de truc. Mais Timothée, comment as-tu donc fait alors
pour passer à la télé là.
C'est un long... Non, mais plus sur la question de la communauté. C'est vrai qu'il y a eu, une énorme séparation quand j'ai arrêté les podcasts. Il y a déjà eu j'avais commencé à engendrer une communauté qui tout de suite a vu que j'arrêtais les podcasts, donc c'est pareil. Et c'est ce que je comprends, parce que t'es pas forcément, enfin, tu cherches quelque chose sur une chaîne, et si ça te correspond plus, tu vas arrêter de la suivre. Et du coup, mais c'est pour ça qu'en fait les seules personnes qui sont restées sont encore là aujourd'hui et soutiennent toujours mes projets. Et malgré le fait que je sois à la télé, enfin que je sois à la télé, que j'ai fait une série Calls qui passe sur Canal+ et qui n'est pas accessible gratuitement de partout. Et donc forcément, c'est du coup les personnes qui me suivent grave piratent, et c'est bien en vrai. Enfin, moi ça me touche pas personnellement, donc je suis content qu'ils puissent voir la série d'une façon ou d'une autre. Et enfin. C'est juste que j'ai vu que les gens qui ont mis la série en streaming, ils l'ont mal foutu, parce qu'il y a l'épisode 7 qui est deux fois, et du coup ça fait que
bordel, piratez bien quoi, faites-le bien.
C'est ça, faites-le bien au moins. Mais sinon non c'est bien, il y a toujours des personnes qui suivent et qui soutiennent, et c'est super. Même si quand je mets quelque chose sur YouTube une fois tous les 4 ans, il y a toujours un peu de personnes qui suivent, quoi.
D'ailleurs, en parlant de Calls, on rappelle que ce soir, à 20h au cinéma de Castres, y a une diffusion de 5 épisodes de la série, avec un ciné-débat ensuite avec Timothée qui
sera là.
Ça y
est, ça marche.
Vous avez réussi à faire fonctionner. On a eu du mal à le faire marcher.
Venez, le gros jour.
Ça sera rigolo. Enfin, c'est pas le mot, mais ça sera présent en tout cas.
Voilà.
Ça sera très très bien. Voilà.
Et donc ouais, juste rapidement, moi je stream donc sur YouTube, et effectivement j'ai des résultats pas trop mal en ce moment, parce que moi je voulais pas scinder justement ma communauté en deux, hein, et c'est un risque aussi à long terme, hein, de faire ça, mais l'avantage, si tu veux, que j'ai quand même pas mal de gens qui me regardent, et je me suis rendu compte là que sur mon dernier stream, il y a pas mal de gens qui sont allés me tiper sur Patreon aussi, parce que moi j'ai un Patreon donc, ouais. Où les gens peuvent me soutenir financièrement. Et en fait, je me rends compte que si je l'encourage pas mal, ça, bah, les gens comprennent petit à petit que faire une chaîne YouTube, ça demande du travail. Et puis surtout qu'un Patreon et qu'un financement comme ça permet aussi de se détacher un peu de l'emprise des marques et d'éviter d'être obligé de faire des partenariats pour vivre de ta chaîne YouTube. Ce qui, ça, est quand même un luxe. Tu vois, si un jour j'ai 1 500 $ sur Patreon, je l'espère, c'est vraiment un moyen pour moi de pas être obligé d'accepter un partenariat parce que je trouve rien et de
pas
prendre...
forcément envie d'accepter.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais comme il faut bien que je vive, tu vois, c'est toujours compliqué. Voilà, donc il y a toujours ces difficultés là.
Tu sens ça, toi, vraiment ?
Deux.
Espèce d'obligation, tu te sens genre merci beaucoup. Oui, Timothée qui m'attend le micro. Tu ressens ça, toi, vraiment, cette espèce d'obligation vers les marques et tout? Parce que moi, c'est un truc que tout le monde me dit, mais que j'ai jamais ressenti une seule fois.
Bah après, j'ai la chance d'avoir des marques avec qui je taffe qui sont cool en général, donc ça va. Mais j'ai pas envie qu'un jour ça puisse arriver d'être obligé d'accepter le truc dans l'éventualité. Voilà, c'est ça qui me ferait chier. Mais oui, pour l'instant, je le ressens pas. Tu veux, je ressens qu'il y a potentiellement quelque chose qui pourrait me bloquer à long terme, mais c'est pas là une épée de Damoclès violente sur la tête.
Ouais, c'est ça.
Et au niveau des lives YouTube, en fait, le truc aussi, et après j'arrête, le truc aussi, c'est qu'en fait, vu qu'il n'y a pas beaucoup de streamers YouTube, en fait, on arrive très facilement dans les tendances YouTube.
Ouais,
il suffit d'avoir 500 viewers à peu près sur un live, et en fait, je suis quasiment tout le temps en tendance des lives sur YouTube. Donc ça, effectivement, c'est plutôt cool. Parce que voilà... Ah écoute, c'est vrai.
Voilà, c'est pas... famous, les tendances.
Non, mais c'est même pas histoire de me la péter ou quoi.
Non, mais c'est vrai, mais bien sûr.
Mais c'est pour ça qu'en fait, moi, ça me fait aussi découvrir.
Mais on a compris, on les connaît vos chiffres, Guillaume Hightech. Excuse-moi.
Tu m'appelais Guillaume Hightech, ça va barder.
C'était Guy
dans les chaumières. On va aller à l'atelier du sommelier, là.
T'as déjà oublié le nom, le mec était si gentil avec nous, putain. Sérieusement, à chaque plat, il passait 5 minutes à nous expliquer quel vin on allait boire et tout, machin, c'était incroyable.
Il y avait un bon petit vin mielleux.
5 minutes sur ce restaurant qui était quand même assez incroyable.
Le vin blanc mielleux était quand même
d'une
qualité
exquise. Mon Dieu.
D'une finesse sublime.
Allez-y.
Un petit blanc, parce que sinon c'est pas marrant quand même. Ah oui, sinon ça manque. Nous sommes toujours avec Timothée Hochet, avec Hardisk et aussi avec Guillaume Slash. Éminent auteur, hein. Je pense qu'il faut quand même garder ça en tête aussi que, voilà. Moi j'ai une question sur, dans le contexte d'un festival des arts numériques, la place, alors peut-être que pour certains d'entre vous c'est bien plus évident, justement la place de la culture numérique, la culture de la culture de la technique dans ce que vous faites, quel est le comment vous axez ça? Alors évidemment, quand on fait des vidéos sur du matos de prise de vue ou des choses comme ça, ça semble évident. Ça semble peut-être moins évident par exemple quand on est auteur et mais il y a forcément une implication là-dedans. Quels sont vos points de vue? Vous avez 2 heures à peu près.
Très bien. Alors, je sais pas si j'ai bien compris ta question, mais en tout cas, effectivement, quand on fait du YouTube, moi, je considère que c'est bien de commencer à comprendre sa caméra, son matos et tout ça. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à comprendre comment fonctionnait ma caméra, et maintenant, je m'amuse à faire plus de photos qu'avant. Donc, sur ça, c'est vrai que c'est très, très cool. Mais après, il faut savoir que t'as quand même beaucoup, t'as pas mal de YouTubeurs qui, au final, utilisent leur smartphone et filment comme ça. Et au final, ça leur va très bien, parce qu'ils ont pas forcément besoin de plus. Je pense, et sans aucune critique méchante envers lui, à The Kerry, qui est tout. Qui est TheKerry78?
TheKerry, je t'aime. Putain.
Mais moi aussi, je l'aime. Ah là là. J'adore ce qu'il fait. Enfin, vraiment, en ce moment, il me fait rire. Donc oui, il filme tout le temps avec son. Je crois qu'il a un Galaxy S8.
Il s'en fout.
Et il s'en fout. Ouais, et l'exposition, le contraste, le shutter speed, il s'en fout, tu vois. Mais en fait, chacun son truc. Je pense qu'on a des affinités différentes avec le matos, avec la culture. Vidéoludique, et au final à partir du moment où tu partages un message et un truc comme ça dans tes vidéos, je pense que c'est ça qui compte, quoi, et que tu le fais de façon plutôt honnête et sincère, parce que voilà, parce que les pubs sur Lovoo, hein, est-ce qu'on en parle?
On en parle ou pas, putain de merde. Hein?
Ah bah voilà. C'est surtout que quand on commence, alors tout à l'heure Hardisk, tu disais que tu étoffes ton équipe, mais c'est vrai que quand on est au début, bah il faut qu'on touche à tout, c'est-à-dire qu'on fait de la rédaction, on fait de l'écriture, mais aussi il faut qu'on maîtrise, même si c'est un smartphone ou quoi que ce soit, mais il faut qu'à un moment le résultat final corresponde à ce qu'on espérait en prise de son, voilà, et au fur et à mesure aussi. Et c'est peut-être une culture justement qu'on n'a pas au début, quand on commence on a juste envie de produire un contenu
contenu, on a envie de parler de quelque chose, et au fur et à mesure, de fait, on se professionnalise ou est-ce qu'on a
Mais tu sais, je pense que même maintenant, même quand tu commences à avoir une équipe, des gens qui bossent pour toi, etc., et qui sont censés travailler sur ces trucs-là pour toi, je pense que c'est méga important, ne serait-ce que de continuer à faire une veille pour savoir ce qui se passe. Surtout que, enfin, après, moi, c'est spécial parce que j'ai une tech qui parle à moitié de tech. Je me considère pas vraiment comme tech pur parce que on fait plus de divertissement maintenant, tu vois. Mais je trouve que c'est quand même vachement important pour pas être largué, quoi. Parce que tu t'es largué extrêmement vite, donc on continue à faire les salons. Là, on va au NAB en avril bientôt. On est revenu à Amsterdam il n'y a pas si longtemps aussi pour voir ce qui se passe, voir les boîtes, les startups qui font du nouveau matos, ce genre de truc. Et ouais, non, c'est super important. Mais après, je pense que de tous les gens qui font des vidéos sur YouTube, il y a quand même une part d'intérêt pour ces sujets-là. Hein. Je pense que c'est quand même. Et même les gens qui font du podcast humoristique de qualité, je pense qu'il y a une part d'intérêt à ça. Parce que de base, s'ils font des vidéos YouTube, ils sont intéressés par le fait d'aller vidéo et par le fait de se diffuser eux-mêmes. Et donc là-dedans va le fait de s'intéresser un peu à la technique, même s'ils ont des sujets préférés ou d'autres. Par exemple, moi, je suis une grosse bite en son, j'y connais rien. Ça m'a toujours fait chier l'entièreté de ma vie. Et pourtant, je suis obligé d'avoir quelques bases parce que c'est comme ça. Désolé, tu me tais. J'ai pas fait exprès. Je suis mauvais en son. Et voilà, et c'est comme ça. Mais je pense que ouais, tous les gens qui font des vidéos YouTube ont un minimum d'intérêt technique pour pouvoir s'autodiffuser et être un peu indépendant. Ouais.
T'en penses ? Ouais. Justement, on peut rebondir, Timothée, peut-être sur justement la technologie. Est-ce que tu as été tenté dans ce que tu as fait? Par exemple, je pense à un exemple, l'écoute binaurale, par exemple, se mettre en situation. Et là, c'est vraiment s'approprier un procédé technique, technologique, qui n'est pas vraiment balbutiant, mais qui demande quand même pas mal de connaissances et de l'expertise.
Balbutiant.
Ouais,
Oui, monsieur.
Tout ce qui est déjà une nouvelle technologie, moi j'aime beaucoup, mais pas seulement dans la technique, aussi dans le sujet. Enfin, Calls, c'est pas une nouvelle technologie, mais ça parle de la technologie, de cette manie qu'on a de s'enregistrer, de tous ces enregistrements qu'on peut retrouver à travers de nombreux appareils, de plein de façons différentes. Et par exemple le son binaural, après moi j'y connais rien, et enfin techniquement, même en image et en son, je connais vite fait les bases, mais pour moi c'est pour ça, c'est peut-être un peu différent parce que j'ai pas forcément cette envie de me mettre à l'actualité et tout ça, parce que maintenant je sais que j'aurai toujours une équipe qui eux seront hyper au courant de ce qui se passe, et donc artistiquement ensuite tu poses la question de moi j'aimerais bien un style comme ça, qu'est-ce qui ferait qu'est-ce que tu me donnerais qui donnerait ce style là.
C'est Norman qui travaille avec toi qui me disait que pour cet épisode là de Call, vous étiez allé dans un labo carrément avec des mecs qui se cassaient la tête depuis 20 ans sur ce sujet là
ouais, par exemple. Ouais.
Mais du coup c'est cool parce que vous avez bénéficié d'une espèce d'expérience.
Bah ouais, nous on n'y connaissait rien, et Norman lui il y restait tout le temps et tout. Il a appris masse parce qu'en effet on a fait c'est Canal à la base qui s'est dit ce serait vraiment super de faire un épisode en binaural. Donc binaural c'est le son spatialisé en gros, donc quand on met un casque on entend tout autour de soi. Et donc on est allé à France Culture voir un mec qui fait ça depuis 20 ans et qui est genre calé de ouf, et c'était super impressionnant. Mais faut savoir s'entourer des bonnes personnes en fait. Il y a la culture de faire tout soi-même parce que YouTube a rendu ce truc hyper hyper important. Mais au final, faut surtout avoir la vision artistique qu'on veut donner, et ensuite trouver les bonnes personnes qui eux ont toute la technique et qui vont pouvoir mettre en œuvre ta vision artistique, quoi.
C'est parfait. Super. J'ai toutes mes réponses.
Ouais,
avez-vous toutes vos réponses?
Bah, c'était clair et concis, ouais, j'ai envie de dire. C'était sublime.
Oui.
Voilà. J'ai mes réponses, j'ai mes questions.
Que rajoute-t-on à part des remerciements à la table du sommelier, sûr, ouais, évidemment.
Et voilà. C'est ce que j'allais dire. D'ailleurs, on n'a pas donné l'adresse. Je suis quand même déçu niveau promo.
Ah. Ah. Eh bien, c'est place Pélisson, les amis.
Place Pélisson, oui. 85 casques.
Exactement, voilà. C'est pas très difficile, il n'y a qu'un seul code postal.
La taverne du sommelier, bien sûr. Place Pélisson, on aime.
Voilà. Métro et République.
Philippe Big Up.
C'est ça, elle est mise en valeur, mais elle n'oublie pas ses valeurs.
Oh.
Elle sort le cross-volet.
Subtil.
Habile.
On remercie infiniment nos invités.
Ben oui, merci à vous.
Merci à vous. Radium, la radio de qualité.
Exactement.
Effectivement.
Merci.
C'est ce qu'ils disent des fois. Merci. À tout à l'heure pour du direct.
À tout à l'heure, ben oui, on va essayer.